L'élément Jim, lu par l'auteur, épisode 74, chapitre 2. Dans l'avion qui me ramenait de Bogota, je repensais à la nécessité de parler avec un de mes collègues de la faculté de théologie. Ce serait bien le diable, et si à l'université catholique, je ne trouvais pas à qui parler des religions. Je voyageais à côté d'un collègue de la PUC du Chili qui ferait escale à Lima avant de rejoindre Santiago. Nous avions participé tous les deux au colloque international de géocritique qui s'était tenu 5 jours durant dans la capitale colombienne. Comme nous plaisantions entre deux petites turbulences au-dessus des Andes qui nous obligeaient à tenir fermement nos jus d'orange dans nos mains, sur le fait que des gauchistes des environs de 68 comme nous étions qualifiés « travail dans une université catholique », mon esprit naviguait autour de ces qualificatifs. Il me ramenait à mes recherches que j'étais impatient de reprendre. Je ne les avais pas tout à fait délaissés, même si dans le colloque, ma communication portait sur la question de la relation ville-province pendant les conflits armés péruviens du XXe siècle. Le deuxième jour, j'avais pu m'échapper de l'Université nationale de Colombie, où se déroulait le colloque, et en avais profité pour visiter le quartier historique de la Candelaria. C'était la première fois que je me rendais en Colombie. Cela m'étonnait moi-même. Bogota était à 3 heures de Lima. J'avais été charmé par la gentillesse de la population. Que ce soit le chauffeur de taxi, le serveur du restaurant de la Sonaje, où j'avais dégusté des empanadas et un ceviche caribeño, ou même la jeune fille aux longs cheveux noirs et au rouge à lèvres vermeil qui me vendit le ticket d'entrée du musée de l'or. J'avais déjà entendu parler de l'amabilité des Colombiens, mais, incrédule par office, je m'en étonnais tout de même, d'autant plus que le Venezuela était un proche voisin. Je m'étais rendu à Caracas 5 années plus tôt, à l'occasion d'un autre congrès, et y avait trouvé une ambiance toute différente. On aurait dit que ces deux pays voisins représentaient les deux extrêmes de l'accueil du sous-continent. Le musée de l'or de Bogota m'impressionna. J'aurais, par réflexe, situé celui de Lima au-dessus. N'était-il pas celui de la vice-royauté de la Nouvelle-Castille? Mais Santa Fe de Bogota était devenue au XVIIe siècle la capitale du Nouvel Empire, que la couronne espagnole avait nommée la Nouvelle-Grenade. C'était une grande capitale historique et son or le montrait. Le musée était assurément encore plus impressionnant, plus fourni que celui de Lima. Je devais y faire une nouvelle rencontre, comme ma recherche m'en réservait avec régularité. Il y avait une salle consacrée à la cosmologie indienne. Elle s'appelait Cosmologie et symbolisme, et je lus l'ensemble des textes qui accompagnaient les objets exposés. On voyait que c'était le travail d'une équipe d'historiens, d'anthropologues, qui n'était pas resté à la surface des choses. Dommage que des grappes de visiteurs se collaient aux vitrines, attirées comme des lucioles vers les objets brillants. Les pires étaient ceux, assez, trop nombreux, qui se plaçaient devant pour qu'on les prenne en photo. L'exposition invitait à entrer dans la cosmologie amérindienne précolombienne et à explorer d'autres réalités, pas pour autant moins logiques que les nôtres. Tout mon intérêt reposa sur ce point. Les prêtres et les chamans étaient chargés de cette relation avec l'au-delà. Entre les deux mondes, ils étaient les médiums, ceux qui savaient, qui avaient les lumières. Comme les lamas, identifiés par des maîtres bouddhistes dès leur plus jeune âge et retirés de leur environnement pour être formés, les enfants, qui étaient désignés pour devenir des prêtres et chamans à l'époque précolombienne, étaient soumis à de longs processus d'apprentissage de la mythologie, des plantes sacrées, de l'astronomie et des pratiques rituelles. Je me souviens également des déloques du livre de Sogyal Rinpoche. Ces personnages, dans la tradition tibétaine, mouraient et renaissaient régulièrement pendant quelques heures pour servir de messagers entre les vivants et les morts. C'étaient des individus ordinaires, souvent des femmes. Déloques, débloques. Une statuette me tira de mes pensées, qui était assise en lotus. Je lus que les Amérindiens pratiquaient la méditation. Cette position leur permettait une intense concentration et un dialogue avec d'autres entités. Dans quelques-unes de ces sociétés, on croyait à la superposition de plusieurs mondes, connectés et interdépendants. Les hommes, avec les jaguars, les cerfs, et en contact étroit avec la nature, habitaient le monde intermédiaire, tandis que les dieux, les ancêtres et d'autres êtres surnaturels vivaient dans le supérieur ou dans l'inframonde. Les oiseaux vivaient dans le monde supérieur. L'inférieur était peuplé de chauves-souris, de caïmans et de serpents.